vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Michel Cohen, qui nous parle de son premier roman, La Rédactrice, qui est apparu aux éditions du Penseur. Bonsoir Michel Cohen.
Bonsoir.
Alors, quelques mots de présentation pour débuter, pour vous présenter aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom. Vous avez travaillé à France Culture, où vous avez conçu et réalisé des émissions sur des philosophes et le langage, avant de rejoindre de grandes agences publicitaires, d'abord en tant que rédactrice, puis en tant que directrice de création. Vous avez obtenu de nombreux prix internationaux, en particulier pour Mikado de Lure, La petite faiblesse qui vous perdra, et Le Parisien, Il vaut mieux l'avoir en journal. Vous vivez à Paris, mais vous êtes née en Tunisie. Alors, je vais vous poser une première question. Vous me dites si c'est indélicat et si ce n'est pas la réponse qui est attendue pour une écrivaine. Mais est-ce que l'attentat de Djerba qui a eu lieu il y a quelques jours, eh bien, vous inspire une réaction ?
Une réaction horrifiée. Moi, je suis née en Tunisie.
Dans quelle ville ?
À Sfax. Et je déteste l'idée que... Quand avait daté le précédent attentat ? Il y a plusieurs années déjà.
Oui, il y a une quinzaine d'années, je crois.
Et ça m'avait tellement fait mal. Et là que ça recommence, enfin, c'est... Non, ça me fait terriblement mal.
Est-ce que vous avez toujours des attaches avec la Tunisie ?
J'avais encore des cousins il y a très peu de temps. Malheureusement, ils sont morts. J'ai encore des petits cousins qui ont une maison là-bas, à la Sheba. Oui. Et j'aime beaucoup ce pays.
Oui, vous êtes partie à quel âge de Sfax?
J'en suis partie à 9 ans. Et j'y suis retournée. On en est parti parce qu'il fallait avancer. Ma mère voulait faire des études. On s'est un peu extirpé de la Tunisie. Et ma mère a fait des études. On s'est installée en France. Mais j'ai gardé. Il y avait quand même. J'avais une immense famille en Tunisie. On était très nombreux. Mon père avait 12 sœurs et qui elles-mêmes ont eu des enfants. Donc on était toute une tribu dans cette ville de Sfax. Oui.
Vous savez que le nom de famille le plus commun à Djerba, c'est Cohen.
Ah, ça m'étonne pas. Alors, non, mais ça me donne envie de pleurer cette histoire.
Alors, votre actualité, c'est la parution de votre premier roman, La Rédactrice, hein, on l'a dit, aux éditions du Penseur. Comment le résumer ? Eh bien, difficilement.
Oui, difficile.
Alors, parce qu'il s'agit d'un roman à l'écriture personnelle et aux accents autobiographiques, celle d'une narratrice à la recherche du mot juste, à travers plusieurs épisodes de la vie de la narratrice, on devine la vôtre, hein, bien évidemment, s'élabore une réflexion sur l'écriture. Alors déjà, racontez-nous, Michel Cohen, comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman ? Et puis après, on parlera du mot roman. Est-ce que ce n'est pas plutôt un essai ?
Voilà, c'est intéressant, oui, c'est une question intéressante.
Alors déjà, la genèse.
Bon, la genèse, c'est un ami qui m'a dit « Assieds-toi et écris ». Et j'avais des tas de... Parce que j'ai écrit toute ma vie, en vérité. Même à la radio, c'était de l'écriture, c'était avec des sons, mais c'était de l'écriture. Et puis, rédactrice, j'étais rédactrice de publicité, donc Et j'avais des textes dans mon ordinateur que je pensais pouvoir réunir simplement et que ça ferait un livre. Et puis non, ça ne fait pas un livre si on réunit des vieux textes. Et donc, cet ami m'a dit « Non, mais assieds-toi et écris, fais 150 pages ». Je me suis dit, c'est malade, 150 pages, c'est énorme, 150 pages. Et il m'a dit, non, mais on s'en fout de la qualité, il n'y a que la quantité qui compte. Et ça a été tout à fait désinhibiteur. Ça m'a enlevé toute inhibition et ça a fait que j'ai écrit dans la plus grande liberté. Et très rapidement, je me suis dit que c'était ça mon sujet, c'était l'écriture. Et c'était tous les différents moments de ma vie où j'avais eu affaire à l'écriture. Que ça soit au début, je dirais, faire une dissertation, ou, avec beaucoup d'inhibition, beaucoup de maladresse, peut-être parce que je venais de Tunisie, que j'ai d'ailleurs...
On va en reparler dans un instant. Oui. L'autre question qui se pose quand on vous lit, alors vous parlez de désinhibition et que finalement, eh bien... advienne que pourra, mais finalement c'est très ciselé, c'est très bien écrit à la recherche du mot juste, hein, c'est ça la problématique. Et pourquoi ce mot de roman et pas plutôt d'essai autobiographique ?
Alors, c'est intéressant parce que c'est mon éditeur qui a dit roman, premier roman. Et moi, au début, je disais, et pas essai autobiographique, non, j'aurais dit récit.
Récit, oui.
Et après, d'abord, je suis d'accord avec l'éditeur. Je pense que c'est bien de dire roman, parce que sinon, qu'est-ce que c'est des textes épars. Enfin, or, il y a une histoire, il y a un début, il y a une fin, il y a un récit, il y a une histoire, comme dans un vrai roman. Simplement, ce n'est pas un roman, ce n'est pas La Marquise est sortie à 5 heures, c'est un roman fait de fragments, c'est un roman, des fragments courts, des fragments longs. Et à la réflexion, au bout d'un moment, je suis un tout petit peu gênée par ce terme de roman, je trouve un petit peu impropre récit, et je me dis que j'ai peut-être inventé une forme.
Eh bien, c'est ce que j'allais vous dire dans un instant. Et quand je dis que c'est difficile de le résumer, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord parce que c'est très divers, très varié. Je parle de beaucoup de choses. Et je crois que j'ai inventé une forme qui m'autorise à mettre des choses tout à fait différentes les unes à la suite des autres. Mais... Il y a quand même un lien à chaque fois, si vous voulez. J'ai fait ça parce que j'aime beaucoup et j'ai pratiqué le montage de cinéma. J'ai fait ça un peu comme on monte un film, c'est-à-dire comment faire du continu avec du discontinu. Et donc, peut-être bien que j'ai inventé une forme où avec une grande liberté, je peux mettre un texte très long, un texte de 4 lignes, un poème, lettriste. Vous voyez ?
Alors, je dois vous dire, je vous avoue que c'est ça qui a retenu mon attention. Je le dis devant les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom, je reçois énormément de livres. Et quand j'ai eu votre livre entre les mains, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, pas un ovni, mais une œuvre littéraire non identifiée. Et puis finalement... Il y a quand même un lien, et on va en parler dans un instant, parce qu'il y a une histoire qui est racontée, qui commence pas n'importe comment, qui commence de manière touchante, par une reproduction, une translittération d'une lettre de votre grand-mère Rose Cohen, qui est écrite en judéo-arabe, et donc en caractère latin, et vous la reproduisez en français. Est-ce qu'on n'est pas là au début de quelque chose et finalement que la problématique de votre ouvrage, il y a une réflexion sur l'identité, sur l'exil. On y viendra plus tard et que cette recherche de la rédactrice du mot juste vient de ses origines où la langue maternelle n'était justement pas le français.
Alors, la langue grand-maternelle,
oui.
Parce que ma mère parlait le français très bien. Chez moi, on parlait français.
Oui.
Mais c'est vrai que ma mère parle aussi l'arabe et que... Oui, c'est très frappant, mais j'ai toujours été très touchée par ces lettres de ma grand-mère, écrites en judéo-arabe, mais avec des lettres romaines. Et c'est très précieux pour moi. Un jour, j'ai fait une émission sur ma famille, sur ma grande famille. Et il y a eu un article dans Le Monde sur cette émission. Et c'est une grande émission de 2 heures qui racontait toute l'histoire de ma famille. Et tout d'un coup, dans Le Monde, était cité le nom de ma grand-mère.
Rose
qui était analphabète. Et là aussi, on parle de Rose Cohen. Et c'est tellement touchant pour moi.
Alors justement, on parle des femmes. Il y a une majorité de femmes sous votre plume.
C'est vrai.
C'est un choix ou c'est l'histoire de votre vie
ben
où les hommes
on est une famille de femmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les hommes meurent.
Alors, vous pouvez en parler de ces femmes, de votre famille ?
De ces femmes ?
Oui, de vos femmes.
De mes femmes ? Oui.
De votre maman,
ma mère. Il y a un récit d'exil. Oui, bien sûr, ma mère qui, quand on est parti de elle nous a eu très très jeune, elle nous a eu à 20 ans, ma sœur, enfin 20 ans, 21 ans, 22 ans. Oui, ma mère qui est un personnage, je dis mon héroïne, ma mère ce héros, voilà, je dis ma mère ce héros, parce qu'elle nous a, elle a décidé un jour de quitter, son mari venait de mourir, elle avait donc 20, 22 ans, elle a décidé de quitter la Tunisie pour aller faire des études en France. Et c'était très compliqué, ne serait-ce que d'avoir des passeports, ne serait-ce que d'avoir de l'argent pour partir. Elle a fait ça, elle était extrêmement forte. Et elle traînait derrière elle ma grand-mère, qui lui a été d'une, d'une grande aide, parce que c'est ma grand-mère qui nous a élevés, qui nous a nourris, qui s'est occupée de nous, les enfants. Et ma grand-mère, elle, était beaucoup plus... Je parle de ma grand-mère maternelle. C'est l'autre paternelle qui écrivait en judéo arabe. Ma grand-mère maternelle était quand même une femme très archaïque, mais elle écrivait et parlait en français. Elle était allée à l'école française.
Alors justement, je vais citer un extrait. Vous avez prononcé vous-même un mot très intéressant sur l'exil. Oui. Et en vous lisant, moi, je pense évidemment à cette idée d'exil, cette idée de femmes fortes qui s'en vont et qui font tout pour la réussite de leurs enfants. Et puis évidemment, la réflexion sur l'identité juive. Et donc, vous écrivez un petit texte qui s'intitule « Chute grand-mère ». Entendre ma grand-mère parler l'arabe en dehors de la maison me faisait honte. Nous lui disions « Chute grand-mère ». En espérant que personne n'avait entendu, en parlant l'arabe, langue qui venait du fond de la gorge comme un vomissement, sonorité obscène, et d'autant plus que le judéo-arabe est plus gras, plus chointant que l'autre, esma en arabe, eshma en judéo-arabe, pour dire écoute, elle nous désignait à la fois comme arabe aux yeux des Français et comme juif aux yeux des Arabes. Moi, je voulais me camoufler, me fondre, parler pointu, manger du camembert, cueillir des boutons d'or. À chaque fois qu'un événement survenait, elle demandait « C'est bon pour nous les Juifs ? Chut, grand-mère !» Et là, il y a plein de choses intéressantes parce que, évidemment, la difficulté d'arriver en France et de s'intégrer, de fondre dans les choses, dans la société environnante. Et puis, il y a aussi quelque chose d'intéressant quand on vous lit, c'est toujours le lien entre l'écrit et le parler, qui a été aussi votre profession. Trouver le mot juste à l'écrit, mais aussi à l'oral, et trouver à l'écrit un mot qui sonne aussi à l'oral.
Bien sûr, oui. Oui. Je suis contente que vous lisiez ce passage-là, parce que je l'aime bien. Évidemment que c'est plein d'ambiguïté, tout ça. C'est-à-dire que chute grand-mère, on essayait de s'intégrer à cette nouvelle vie, à la France, à manger du camembert et cueillir des boutons d'or, être comme les petits camarades. Mais il va de soi que après c'était c'était une douleur, sa douleur à elle. C'est ma grand-mère qui a porté toute la douleur de la famille. Nous, on devait s'avancer, on avançait dans la vie, on allait vers l'avenir, on avait quitté ses vieilleries et tout, mais ma grand-mère portait la douleur de la famille et cette douleur, elle est réelle.
Alors, on parlait d'objets littéraires non identifiés et du style que crée la rédaction de cet ouvrage et nous, en le lisant, alors il y a des moments différents. Madame Bovary, que Madame Genette vous a fait étudier à l'école. Alors ça, dans un ouvrage, la rédactrice, on comprend. Une lettre adressée à l'adjoint au sport de la mairie de Paris concernant la fermeture de la piscine municipale du 10e arrondissement le dimanche suite à une grève de ses agents. Ou bien tout simplement la réaction de la narratrice, donc votre double littéraire, quand elle publie un texte dans une revue, mais qu'elle a dépassé le calibrage. Qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça? Et comment vous avez pensé l'association? Est-ce qu'il y a un ordre?
Ah oui.
Oui,
oui, oui. Ce qui fait le lien entre tout ça, c'est l'écriture. La lettre à la mairie de Paris. En fait, il y a d'abord une chose, c'est que je m'amuse beaucoup en faisant tout. Enfin, je m'amuse. Je suis joyeuse. C'est pas un jeu si facile, hein, évidemment, mais il y a des moments de jubilation. Et la lettre à la mairie de Paris en est un. Et faisant cette lettre, en fait, ce que j'essaye de faire, j'appelle ça exercice d'imitation. J'essaye d'imiter une écrivaine que j'adore, qui s'appelle Lydia Davis, qui est une écrivaine américaine, qui écrit comme ça sur des petites choses un peu minables et qui écrit de façon... ce qu'elle écrit est à la fois cruel et magnifique, je trouve. Et donc, c'est dans mon admiration pour cette femme que j'ai écrit la lettre. Donc, ça concerne l'écriture, c'est comment écrire aussi bien que Lydia Davis. C'est pour ça que j'ai fait la lettre à la piscine, sachant que cette lettre, je l'ai vraiment écrite. Enfin, je veux dire, il y a eu un vrai problème avec la piscine. J'ai changé le nom de la piscine pour pas avoir des problèmes.
D'accord, donc c'est pas la mairie du 10e.
Si, c'est la mairie du 10e, mais j'ai mis un autre nom pour pouvoir continuer à y aller. Et l'autre chose, L'autre texte, qu'est-ce que
c'était? C'était Madame Bovary, quand vous parlez de Madame Bovary.
Ah bah oui, Madame bien Jeannette sûr, c'est l'écriture. Oui. Mais vous m'avez cité une autre chose, j'ai oublié.
Alors
quoi.
Le dernier, c'est le calibrage, vous dépassez le nombre de signes.
Bien sûr, c'est l'écriture toujours. Oui. En fait, ma question permanente, c'est comment écrire le mieux possible? Comment écrire avec le plus de justesse? Donc là, il y avait un problème, effectivement, il fallait faire un texte de 6000 signes. Comme j'étais débutante, je ne savais pas que c'était si important. J'ai envoyé 8250 signes. On m'a dit non, ça ne va pas. Donc, il faut couper. Donc, toute la question de l'artisanat de l'écriture, imiter pour y arriver, couper, raccourcir, tout ça, c'est trouver le mot juste. Il y a des textes où tout d'un coup, si on met un point au lieu d'un point virgule, ce n'est pas pareil. Des choses qui ont l'air infimes. Et c'est ça, tout le livre est plein de récits, de choses tout à fait minuscules, mais que j'essaye de raconter avec un peu d'humour et puis d'émotion, sans doute.
Et c'est ça qui fait aussi la subtilité de votre écriture et qui fait plaisir à lire. Est-ce que vous avez hésité sur le titre, La rédactrice?
Oui, oui, j'ai hésité. Ça ne s'appelait pas comme ça au début.
Oui.
Et tant que ça s'est appelé autrement, ça a été refusé par les éditeurs.
Vous pouvez nous dire comment
oui,
ça s'appelait?
Ça s'appelait La Dame Assise. Et en fait, non, c'est drôle parce que j'ai donné le manuscrit à lire à mon directeur de création en publicité, Rémi Babinet. Et il m'a dit, le livre, je l'adore, il est formidable. Mais alors, c'est quoi ce titre? Et c'est lui qui m'a dit d'appeler ça La Rédactrice. Et effectivement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que ça dit ce que c'est. Et puis la rédactrice, quand on dit la rédactrice, on parle de quelqu'un qui ne fait pas de la littérature. La rédactrice, elle rédige, elle n'écrit pas. Et toute la question du livre, c'est justement, puisqu'elle, cette rédactrice, écrit un livre, est-ce qu'elle va pouvoir se dire écrivaine?
Alors rédactrice publicitaire, hein, oui. Ça a été votre métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Et puis, à vous lire, mais peut-être que vous ne le direz pas, vous avez été une rédactrice publicitaire de talent connu et reconnu.
Merci beaucoup. Oui, j'ai fait une carrière dans la publicité. Oui, j'ai fait une carrière dans la publicité. Eh bien, en quoi ça consiste? D'abord, il faut trouver des idées. Quand on travaille avec un directeur artistique, il y a un directeur artistique qui est censé s'occuper des images et un rédacteur qui est censé s'occuper des mots. Mais à deux, il faut trouver des idées. Et des fois, c'est le rédacteur qui trouve les images et le directeur artistique. Mais donc, il faut écrire le plus efficace possible. La publicité, l'écriture publicitaire, elle doit être efficace. En même temps, elle doit être capable de susciter de l'émotion. Il y a de moins en moins de bons rédacteurs en publicité. Il y a quelques années, c'était vraiment... il y avait des gens magnifiques qui écrivaient des choses. Et même pour commencer encore beaucoup plus loin, je crois que c'est Desnos qui a été publicitaire, c'est ça?
Oui.
Et il avait écrit pour la Marie-Rose, vous savez, le produit contre
les
cheveux, les poux. Oui. Il avait écrit La mort parfumée des poux. Ça, c'était beau.
Oui, ça fait passer quelque chose qui est un peu dégoûtant. Oui. Alors, le goût des mots, et puis c'est pas n'importe quel métier, parce que vous avez réussi à faire entrer dans les dictionnaires un mot comme bouloche, par exemple.
Voilà. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'était tout un con. La bouloche, vous voyez ce que c'est? C'est les petites boules qui sont sur les pulls, qui arrivent sur les pulls. Sur les vêtements quand on les a trop lavés, en fait. Et on a dû lancer le nouvel Ariel anti-bouloche. Donc, il fallait expliquer que grâce à cet Ariel, il n'y aurait pas de bouloche sur vos pulls. Mais c'est toute la difficulté, c'est que on peut pas... Ariel ne va pas enlever les bouloches, vous voyez. Il ne va pas les enlever. Ariel, si vous lavez votre pull avec Ariel depuis le début et tout du long de sa vie, Ariel va retarder l'apparition des bouloches. Donc, c'est tout le problème de la vérité en publicité, ce qu'on peut dire. On ne ment pas, on ne peut pas mentir, mais on arrange les choses de façon que ça ait l'air d'en dire plus que ce que ça dit.
Est-ce que c'est toujours le cas?
Bien sûr.
Oui.
Oui.
Oui, même pour les crèmes anti-rides.
Les crèmes anti-rides, elles n'ont jamais enlevé une ride.
Oui, c'est la prévention. Et en fait,
Mais qui est-ce que vous pouvez me dire que vous n'avez jamais lu un texte sur la crème anti-rides, jamais espéré que la crème va enlever vos rides ou vous n'en avez pas?
Oui, mais j'adore lire les magazines féminins et j'adore lire les textes, les inventions. Voilà. On trouve des choses incroyables qui sont pas forcément efficaces, mais c'est l'invention du mot ou de la molécule qui fait sens.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais on écrit. C'est ce que je crois que je le dis à un moment. C'est-à-dire que j'ai fait ce métier comme un artisan qui essaye d'écrire le mieux possible et avec talent si possible, mais avec efficacité, avec justesse. Mais il va de soi qu'on fait ce métier avec une morale d'artisan pour vendre une crème anti-rides qui n'enlève pas les rides, un gâteau qui est sûrement trop gras, trop sucré, une banque qui n'a rien de moral. Mais on fait ce métier avec beaucoup de sincérité. Donc, c'est ça toute l'ambiguïté de la chose. Enfin, l'ambiguïté de la chose, oui.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Michel Cohen qui nous parle de son roman La Rédactrice, qui a paru aux éditions du Penseur. Michel, pourquoi cette fascination pour l'écriture? Pourquoi cet amour des mots? Est-ce qu'il y a une réponse déjà?
C'est comme quand on fait un film, c'est arranger le monde de mieux. C'est faire en sorte que ça soit plus beau, qu'il y ait un plus bel ordre, que je sais pas. Je sais pas s'il y a une réponse.
Alors il y a l'amour des mots et puis il y a l'amour et puis la façon dont on comprend les mots qui nous sont dits. Et il y a un épisode qui m'a intéressé. Hein. Pour ceux qui me suivent, ils comprendront. Emmanuel Lévinas, que vous rencontrez.
Oui.
On vous demande à France Culture de marquer le 300e anniversaire de la mort de Spinoza. Et donc, l'idée vous vient d'aller interroger Emmanuel Lévinas. Et il vous raconte une petite histoire, celle du petit chien et de l'éléphant. Ça vous mortifie, mais finalement, vous vous apercevez, quand il vous raccompagne sur le pas de la porte, qu'il ne fallait pas le comprendre comme ça. C'est amusant.
C'était émouvant même.
Oui, vous pouvez nous raconter.
Oui. Au point de départ, d'abord, on me charge de faire de fêter 6 ou 7 heures d'émission, 300e. J'avais 25 ans. Enfin, j'étais quand même très très jeune et je crevais de trouille. Enfin, j'avais très peur. Mais je vais voir Lévinas parce que Lévinas a parce que Spinoza a écrit, comme vous savez, l'exégèse biblique, il a critiqué beaucoup et Lévinas ne peut pas être d'accord avec Spinoza là-dessus. Donc je vais voir Lévinas pour ça, pour l'interroger sur ça, sur l'interprétation des Écritures par Spinoza. Et au milieu de la conversation, Lévinas me dit: mais qui va me poser les questions? Je dis moi, très intimidée. Et il me dit: vous connaissez l'histoire du petit chien et de l'éléphant? Et je lui dis, non, vous voulez que je vous la raconte? Oui, c'est un petit chien qui est devant un éléphant et qui aboie de toutes ses forces, me raconte Lévinas. Et au bout d'un moment, quelqu'un lui dit, mais tu espères impressionner l'éléphant? Non, bien sûr, je ne vais pas impressionner l'éléphant, mais les autres petits chiens, oui. Et moi qui étais si peu sûr de moi, j'ai pris ça comme un coup de poing dans l'estomac. Je me suis dit que c'est affreux ce qu'il me raconte, mais quelle horreur.
Oui.
Et c'est seulement en partant que j'ai osé lui dire, mais quand même, pourquoi vous m'avez raconté cette histoire? Et il m'a dit, parce que c'est marrant, parce que je veux. Puis après, il m'a dit, mais vous avez compris que c'était vous le petit chien? Et j'ai dit, évidemment. Et il m'a dit, mais non, le petit chien, c'est moi, l'éléphant, c'est Spinoza. Vous vous rendez compte que je vais aller dire à la radio française que Spinoza n'y connaissait rien au Talmud. Et qui suis-je pour... Voilà. Et donc, il m'a embrassée.
Alors, il y a un autre épisode émouvant, celui de l'immeuble Lévitant.
Oui.
Et de la plaque à écrire. Donc, encore une histoire d'écriture.
Toujours.
Donc, le lieu était un lieu de stockage des biens spoliés aux Juifs pendant l'occupation, une annexe du camp de Drancy. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode? Et puis comment vous êtes retrouvée devant ce lieu?
Ben, c'est-à-dire que l'agence de publicité où je travaillais, qui était à Levallois, a décidé de déménager là, dans ce qu'on appelle l'immeuble Lévitant, en face de la mairie du 10e. Mmh. Et j'ai appris, pas tout de suite, mais un jour, j'ai appris que cet immeuble avait été, pendant la guerre, un camp. Et un endroit où, en fait, on stockait les biens pris dans les maisons des Juifs. Des Juifs qui étaient partis en camp de concentration ou en zone libre ou qui avaient fui. Et c'était là que les objets de la vie quotidienne étaient... Parce qu'il y avait d'autres endroits pour les tableaux, c'était le Louvre. Oui. Pour les pianos, c'était le palais de Tokyo. Il y avait des endroits qui étaient dévolus à des objets particuliers. Là, c'était... les jouets, les casseroles, les couvertures, les
biens du quotidien.
Les biens du quotidien. Ils allaient jusqu'à arracher les fils électriques. Vous voyez, c'était vraiment... C'était une partie de la solution finale, cette histoire. Mmh. Ils envoyaient tout ça en Allemagne. Mais... pour trier les objets, jeter ceux qui n'étaient pas en bon état, faire des paquets, réparer. Il fallait des gens. Et ces gens, ce sont des Juifs qui ont été pris à Drancy et qui venaient là pour faire ça, enfermés là. Et alors, c'était des Juifs, des demi-Juifs, suivant la terminologie nazie, parce qu'ils étaient conjoints d'Ariens, ou vous avez un grand-père. Oui. Voilà. Et quand j'ai appris ça, j'ai voulu faire une plaque. Et donc, je raconte cette histoire, c'est une histoire d'écriture encore. Comment on écrit une plaque commémorative, mm-hmm. sachant que c'est au mot près, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il faut être efficace dans une plaque, mais il faut être juste. Et en fait, j'ai fait une première version de cette plaque, que j'ai écrite parce que j'étais rédactrice, que j'ai fait valider à tout le banc et l'arrière-banc, y compris les historiens qui avaient écrit un livre là-dessus, y compris tout le monde. On m'avait dit que c'était très bien. Et le jour où on a dévoilé la plaque, en fait, il y a quelqu'un qui a hurlé, qui a dit que cette plaque avait été écrite par un antisémite. Et cet antisémite, c'était moi. Et en fait, j'avais écrit... Cet immeuble, je ne sais plus comment ça avait commencé, a servi de camp pendant la guerre. Ici, les prisonniers étaient chargés de... voilà. Et ce qu'il y avait de, évidemment, tout à fait pas bien... Il y avait le mot juif après dans le texte, mais ici, les prisonniers, il fallait dire ici, les juifs. Et je ne l'avais pas fait. Il manquait ce mot-là à cet endroit-là.
Alors, je peux lire ce que vous avez écrit?
Ça, c'est ce que j'ai écrit. Allez-y.
Entre juillet 1943 et août 1944, cet immeuble, alors magasin Lévitant, a servi d'annexe au camp de Drancy. Ici, les prisonniers étaient contraints de trier les meubles et les objets méthodiquement volés par les nazis dans les appartements des Juifs, n'oublions jamais. Et alors, la personne qui s'indigne, c'est Adi Fuchs.
C'est Adi Fuchs.
Que tout le monde connaît, oui. parce que c'est un militant de la mémoire. Et il est vrai que les questions liées à la Shoah sont toujours brûlantes pour les survivants. Oui. Donc ça, c'est le premier texte.
Oui. Alors, il s'indigne. Pour moi, c'était terrible quand même, parce que j'avais mis 2 ans à faire ce truc. Enfin bon, mais il avait raison. Et il fallait dire que c'était des Juifs qui étaient là. Et à trier les objets, tout ça. Et donc, on a ensemble, en s'engueulant, on s'est engueulé avec Andy Fuchs et avec tout le monde, on a réécrit ce texte et vous pouvez lire peut-être.
Voilà, le nouveau texte. Sous l'occupation, de juillet 1943 à août 1944, avec l'accord du gouvernement de Vichy, cet immeuble, alors magasin Lévitant, a servi d'annexe au camp de Drancy. Ici, des centaines de Juifs, dont beaucoup furent ensuite déportés à Auschwitz et Bergen-Belsen, étaient contraints de trier les meubles et les objets pillés par les nazis dans les appartements des familles juives, n'oublions jamais. C'est long quand même.
Ben voilà, on avait toute cette question de la longueur du texte. Oui. Parce que moi, je savais que, vous avez vu, je m'intéresse au nombre de signes et tout ça. Je savais qu'il fallait pas dépasser à la précision. Donc c'est, mais après, on était très copains à la fin avec Adi Fuchs, hein, il ne faut pas croire. Mais oui, c'était tout un combat entre un texte bref. Comment est-ce... Moi, je me souviens, je voulais que le texte soit élégant. On me disait, mais ça ne va pas la tête, mais pourquoi élégant ? Enfin, c'était très, très, très intéressant du point de vue...
De l'exercice d'écriture.
Voilà. Et d'ailleurs, je crois que ce texte-là, il est très central dans le livre. Il dit beaucoup... qu'est-ce que c'est le mot juste ? Qu'est-ce qui se passe quand on oublie un mot ? Qu'est-ce qui se passe, vous voyez, et comment faire pour attraper les gens qui passent dans la rue avec l'écriture, vous voyez, quelle est son efficacité, est-ce qu'on peut tout dire, est-ce qu'on doit tout dire, enfin, je pense que cette anecdote dit beaucoup sur ce que c'est qu'écrire.
Vous remarquez aussi qu'il y a beaucoup d'éléments liés au judaïsme, à la mémoire, dans votre livre.
Oui, tout le temps.
C'était par hasard ou c'est parce que c'est comme l'air que vous respirez ?
Oui, c'est ça.
Oui ?
Je m'en suis rendu compte qu'après. Et je me suis rendu compte qu'il est tout le temps question de judéité. Et pourtant, je ne suis pas religieuse, vous voyez.
On revient à la réflexion sur l'identité dont on parlait au début, qui n'était donc pas consciente.
Peut-être, oui.
Peut-être.
Oui, oui.
Alors, le livre se termine avec des broderies.
Oui.
Alors, il y a vraiment de tout dans l'amour des mots et l'exercice d'écriture. Racontez-nous cette histoire des broderies de poèmes.
Oui. Eh bien, j'ai...
Qu'est-ce que vous vouliez faire ?
Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais... D'abord, je me suis intéressée à la broderie. Voilà. Je faisais de la pub et tout, et puis j'ai découvert que ça faisait du bien de faire du point de croix, des fils de couleurs, des petites fleurs, des chiens, des chats.
Ça détend.
Ça détend. Et puis je me suis rendu compte que chaque fois autour des broderies, on écrit des alphabets. Donc A, B, C, D. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que puisque j'avais des alphabets, je pouvais écrire tout ce que je voulais. Donc c'est comme une découverte de l'écriture. Les lettres, je pouvais les mettre dans un certain ordre et dans un certain... Voilà. Et puis, par ailleurs, je ne peux pas tout raconter, mais par ailleurs, j'ai des amis poètes qui s'intéressaient au monostiche, c'est-à-dire au poème d'un vers, d'un seul vers. Et j'ai un ami qui s'appelle Jean-François Goyer, qui a écrit pour moi des monostiches à broder, qui avaient tous rapport avec la broderie. J'ai fait de la métabroderie, si vous voulez. Et du coup, et j'ai mis ça à la fin parce que c'était comme si c'était... finalement, ce qui compte, c'est les lettres. C'est l'écriture, c'est la lettre. Et du coup, c'est comme si il y avait un scribe dans un coin ou un copiste qui brodait des lettres. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je vois tout à fait parce que je reviens encore une fois à l'écriture de l'identité, l'importance de la lettre carrée, de la lettre hébraïque, de la lettre elle-même quand on fait de l'exégèse. Biblique, talmudique, etc. Et en fait, ça m'a fait penser un peu à ça, visualiser les lettres, parce que la forme de l'aleph n'est pas innocente.
C'est très, très beau, j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai. Vous voyez, je vous ai dit un scribe ou un copiste.
Oui,
oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Et je suis contente. Au début, dans la première version, il n'y avait pas ce texte à la fin. Et je pense que ça... Ça ajoute du romanesque, qui est quelqu'un au bout du compte qui brode des lettres.
Encore une histoire de broderie.
Oui.
Alors, d'après vous, ce livre intéressera qui ? Quelqu'un qui veut se divertir, quelqu'un qui est journaliste et qui veut travailler sur le sens du mot juste, peut-être à l'école aussi. Enfin, moi, je pense que c'est un livre qu'on pourrait étudier à l'école.
Vous croyez ?
Oui,
peut-être.
Et qui apporterait différents supports littéraires. Mais vous, est-ce que vous avez pensé à ça, à la réception du livre ?
Oui, j'ai pensé que ça pouvait intéresser, par exemple, comme il y a plusieurs fils qui sont tirés, puisqu'on parle de broderie, il y a plusieurs fils qui sont tirés. Oui, des gens qui peuvent intéresser par mon histoire d'exil, de Tunisie, de judaïsme et tout ça. Mais aussi, par exemple, la pub, c'est un fil aussi.
la radio, c'est aussi un fil. Vous voyez, il y a des tas de... Il y a des tas d'entrées.
Un tissage de fils différents.
Oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, dans les gens commencent à avoir lu le livre, les amis, chacun rentre par une porte différente. C'est très étonnant. Il y en a qui disent, ce chapitre sur la radio, c'est ça. Il y en a d'autres qui disent, c'est la plaque commémorative. Il y en a d'autres qui disent, c'est Lévinas. Il y a même une amie qui m'a parlé longuement de ce petit texte sur la tortue Aglaé que ma sœur avait dans sa main quand on a quitté la Tunisie.
Et qui est arrivée jusqu'en France.
Oui,
voilà.
Voilà. Et où je dis qu'elle, au moins, elle est venue avec sa maison sur le dos, contrairement à ma grand-mère qui était épouvantée de voir tout s'envoyer autour d'elle, s'envoler autour d'elle.
Il y a une question classique, mais non moins difficile, pour terminer cette émission, si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la Fréquence juive de lire votre ouvrage, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je crois que c'est un film joyeux. C'est un film où il y a de l'allégresse et une certaine ironie. Mais c'est aussi, je crois que j'essaye d'être juste. Et c'est pas si fréquent, c'est pas si simple. J'aime cette idée que le livre rend joyeux.
Merci infiniment, Michèle Cohen, d'avoir parlé avec nous de votre actualité.
Merci pour vos questions.
Je vous en prie. La rédactrice qui vient de paraître aux éditions du Penseur, évidemment qu'on recommande aux auditrices et aux auditeurs, tout simplement parce que c'est autre chose. C'est une expérience de lecture. C'est sans doute un livre que vous n'avez jamais lu. C'est un livre, en plus, qu'on n'est pas obligé de lire de la page 1 à la dernière page. On peut y picorer ce qu'on a envie d'y trouver, puis revenir en arrière. C'est une expérience originale de lecture dans votre souci de trouver le mot juste, le mot vrai. Merci infiniment et à bientôt.